Bienvenue dans votre émission La Brève Bien-être. Bonjour Claire-Elisabeth.
Bonjour Muriel, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, nous sommes heureuses d'accueillir Serge Olive, qui est hypnothérapeute sur GAP. Bonjour Serge.
Bonjour.
Alors Serge, dites-nous, qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé dans notre belle ville de GAP?
Alors à la base, je suis plus ou moins de GAP, puisque j'y ai habité depuis que j'étais enfant. J'en suis un petit peu parti pour les études, etc. Et puis j'y suis revenu très récemment. Et en fait, je suis musicien de formation. J'ai pratiqué la musique en milieu professionnel pendant plus de 20 ans. Je la pratique toujours aujourd'hui. Et à un moment, j'ai eu besoin de m'équilibrer dans ma vie professionnelle et de faire complètement autre chose en parallèle de la musique, puisque la musique c'était un métier, mais c'était aussi une passion. Et à un moment, ça c'est un peu dévorant, donc il me fallait autre chose pour m'équilibrer, et je me suis découvert un goût pour l'aide aux personnes, et j'ai longtemps cherché comment je pouvais aider les personnes à aller mieux, et j'ai découvert l'hypnose il y a quelques années. Je l'ai pratiqué entre guillemets en tant que sujet également, et c'est aussi ce qui m'a fait un petit peu une révélation. Et après, j'ai suivi deux formations et donc j'en suis venu à être hypnothérapeute et m'installer sur GAP.
Alors justement, qu'est-ce que c'est que l'hypnose?
C'est assez simple. On va dissiper très vite quelques idées reçues. L'hypnose, ce n'est pas un sommeil profond dans lequel on dort ou alors où on va avoir les yeux tout blancs en parlant de ses vies antérieures. Ça, c'est au cinéma ou c'est éventuellement au spectacle. L'hypnose, on va être très schématique, c'est tout simplement un état de relaxation et de concentration intense. On la pratique même tous les jours, tous, sans s'en apercevoir. Quand on conduit, par exemple, on s'aperçoit qu'on peut aller d'un point A à un point B. Pendant qu'on va de ce point A à ce point B, on pense à ce qu'on a fait pendant sa journée, on pense à ce qu'on va faire en rentrant, et pourtant on n'oublie pas de mettre ses clignotants, de tourner à gauche quand il faut tourner à gauche, et bien là on fait l'expérience de la transe hypnotique.
Alors merci beaucoup pour cet éclairage très important à l'heure actuelle, car on voit souvent l'hypnose galvaudée par rapport à tout et à rien, donc c'est vraiment intéressant de un peu recadrer les choses. Et moi je souhaiterais savoir comment l'hypnose est utilisée à des fins thérapeutiques.
Alors là, on va rester pareil, assez schématique, sinon on va rentrer dans des détails qui vont être un petit peu... ça va pas être très compréhensible. On va dire qu'en fait, quand on est sous hypnose, on va accéder plus facilement à notre partie inconsciente du cerveau. On a deux parties dans le cerveau, la partie consciente, la partie inconsciente, pour faire simple. Et cette partie inconsciente, qui est le siège de tous les schémas, de toutes les habitudes, de tout ce qui est ancré chez nous au plus profond, des émotions, etc. On va endormir un petit peu la partie consciente et pouvoir parler à la partie inconsciente et provoquer donc des changements durables. Et c'est là que l'hypnose va être intéressante d'un point de vue thérapeutique.
Est-ce qu'on peut guérir avec l'hypnose?
Nous ne sommes pas des médecins. Nous sommes des thérapeutes. Moi, je préfère employer le terme aider. Il y a des motifs pour lesquels les gens viennent nous voir. Les changements qui vont être provoqués par l'hypnose peuvent être apparentés à une guérison. Quand on fait un sevrage tabagique, par exemple, et qu'il fonctionne pour diverses raisons, effectivement, on peut considérer qu'on a guéri une personne de sa dépendance au tabac. Mais on peut avoir aussi des gens qui viennent nous voir parce qu'ils sont malades, imaginons une personne qui a un cancer. On ne va pas la guérir du cancer. Par contre, on va l'aider à vivre mieux sa maladie ou vivre mieux le stress, par exemple, que la chimiothérapie peut occasionner. C'est pour ça que moi, je préfère employer le terme aider. Donc non, on ne guérit pas à proprement parler sous hypnose, mais par contre, on se fait aider, on va mieux, on est plus détendu. C'est surtout un processus de bien-être. Et ce bien-être peut éventuellement, oui, guérir, entre guillemets.
Et peut-il arriver que des personnes ne soient pas réceptives à l'hypnose?
En fait, on est tous réceptifs. On est tous hypnotisables. Parce que, tout simplement, pour la simple et bonne raison qu'on a tous le même cerveau et qu'il fonctionne de la même manière. Donc, on est tous hypnotisables. Maintenant, il y a réceptif et réceptif. On a deux, en gros, on a deux types de sujets. Des sujets qui vont être non analytiques, c'est la plupart des gens. Ce sont des sujets qui vont se détendre facilement, qui vont avoir une capacité à se concentrer facilement et qui vont partir assez facilement en transe hypnotique. Et puis, il y a des sujets analytiques, c'est-à-dire des personnes qui, dont l'esprit ne peut pas s'empêcher de tourner, de se poser plein de questions. Ceux-là, ils vont être hypnotisables aussi, ils vont être réceptifs, mais on va pas employer la même méthode pour les mettre sous hypnose, tout simplement. Mais tout le monde l'est.
Alors, si on prend bien en compte cet élément-là, mais qu'admettons, on réalise une thérapie par l'hypnose, donc on a été réceptif, mais finalement, le problème ne s'est pas résolu. Pourquoi ?
Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Premièrement, il faut savoir déjà que l'hypnose, c'est un processus collaboratif. On est deux à pratiquer la thérapie, le thérapeute et le sujet ou le client, ou le patient, il y en a qui appellent le patient. Il faut que la personne qui vient, qui consulte en cabinet, soit parfaitement motivée à opérer un changement dans sa vie. S'il n'y a pas la motivation, obligatoirement la thérapie ne va pas fonctionner. Alors c'est un peu ce qu'on mesure souvent en première séance, moi c'est ce que je fais la plupart du temps en première séance, sous forme d'hypnose conversationnelle par exemple, on peut arriver, ou sous forme d'exercice de suggestibilité, on peut arriver à savoir à quel point le sujet est motivé. Il peut y avoir d'autres raisons, c'est peut-être pour des problématiques un petit peu plus profondes, par exemple, la personne ne va pas forcément livrer toutes les informations qui seraient nécessaires à la thérapie, va éluder certaines questions, va pas vouloir parler de tout ou donner de mauvaises raisons, vouloir cacher un peu des choses. Donc effectivement, si le thérapeute a pas en main toutes les informations nécessaires pour construire son protocole personnalisé à son sujet, nécessairement ça ne fonctionnera pas.
C'est assez intéressant, je me permets de rebondir parce que souvent les gens pensent qu'au niveau de l'hypnose, le sujet du coup est totalement passif, alors qu'en fait c'est un vrai travail d'équipe.
Ah oui, complètement. Ça va jusqu'à tel point qu'il y a des protocoles où on peut poser des questions au sujet alors qu'il est sous hypnose et où il peut répondre. Donc c'est là aussi toute l'importance de dire que le sujet ne dort pas en hypnose. En hypnose, moi ça m'arrive fréquemment, quand je fais une induction par exemple, d'employer le mot dormir ou le mot dormer. C'est simplement que c'est un mot que le cerveau comprend très bien, très facilement, et quand il veut le faire, il va le faire. Mais en fait, on ne dort pas en hypnose. Il ne faut pas d'ailleurs, si on dort, c'est raté, il n'y aura pas de séance. Il faut surtout dire aussi qu'il est tellement impliqué que on ne peut pas hypnotiser quelqu'un qui ne veut pas être hypnotisé. C'est vraiment un processus de collaboration entre le sujet et son thérapeute.
Et par rapport à tout ce qu'on peut voir dans les médias ou sur certains salons, comment pouvez-vous rassurer les personnes qui craignent d'être manipulées sous hypnose ?
Ça revient à ce que je disais précédemment. Tout comme on ne peut pas hypnotiser quelqu'un qui ne veut pas l'être, on ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un sous hypnose s'il ne veut pas le faire. Tout ce que fait le patient sous hypnose, il veut le faire. Il accepte la suggestion. L'hypnose de spectacle, l'hypnose de rue, j'allais dire que ça nous fait un petit peu, ça nous fait pas trop du bien. Bon, mais c'est pas vraiment ça. Disons qu'il faut surtout rassurer les gens sur le fait qu'il est quand même à différencier l'hypnose de spectacle ou l'hypnose de rue, de cinéma, j'en parle même pas. Il est à différencier cela avec l'hypnose thérapeutique. En réalité, même si les procédés d'induction notamment sont sensiblement les mêmes, le but est différent. Dans l'hypnose de rue, par exemple, on va avoir des inductions rapides qu'on n'aura pas forcément souvent dans de l'hypnose thérapeutique, parce que ça ne sert pas à grand-chose. L'hypnose de spectacle, par exemple, qui dit spectacle dit spectaculaire. Donc qui dit spectaculaire dit il faut que ça marche. Donc on va chercher, on le voit, moi je l'ai vu dans de l'hypnose de spectacle, l'hypnotiseur va chercher les sujets les plus réceptifs, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui vont partir le plus vite, le plus facilement, qui vont accepter facilement la suggestion. Et tout ce qu'ils font, je sais pas, faire la poule, n'importe quoi, c'est qu'ils ont envie de le faire. Et puis le but de l'hypnose de spectacle, c'est d'amuser les gens. Quand vous venez consulter en cabinet, le but, c'est pas de vous amuser, le but, c'est pas de perdre votre argent, de perdre votre temps, et le thérapeute non plus, il n'a pas de temps à perdre. Lui, il est là pour vous aider, et vous, vous êtes là pour être aidé. Le thérapeute n'est pas là pour s'amuser, et vous non plus.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut traiter avec l'hypnothérapie ? Pour quelles raisons on peut venir vous consulter ?
Alors pour diverses raisons. Alors moi personnellement, la plupart des clients que je reçois viennent pour du stress ou de l'anxiété. C'est vraiment la maladie du siècle. Du stress au travail, dans la vie privée même. Mais on peut consulter pour du développement personnel, la confiance en soi, etc., atteindre des objectifs. Bon. Et puis, on a des problématiques plus spécifiques comme les phobies. Alors, toutes sortes de phobies, phobies animales, phobies alimentaires, phobies sociales, assez souvent aussi, et pour toute forme d'addiction. Voilà, ça, les addictions, le sevrage tabagique notamment, c'est ce qu'on fait le plus. Je crois que tous les hypnothérapeutes le rapportent aussi. Les addictions à l'alcool, aux drogues même plus dures.
Combien de séances pourriez-vous conseiller pour une personne qui vient vous voir avec une problématique ?
Alors, cela dépend de la problématique et de la personne. Il faut tout simplement savoir que un hypnothérapeute, généralement, qui va vous dire qu'il faut 10 séances pour régler votre problème, je pense qu'il faut fuir. Je vais pas juger les autres. Ça fait partie des thérapies brèves. Donc, bref, chez moi, ça veut dire moins de 5 séances. Pour moi, il y a toujours une séance préliminaire, préparatoire, qui est nécessaire parce qu'on a besoin de parler d'hypnose à des gens qui viennent et qui ne savent pas ce que c'est. La plupart des gens qui viennent me voir ne savent pas ce qu'est l'hypnose. Ils sont assez curieux, ils sont ouverts la plupart du temps, sinon ils ne passeraient pas la porte. Mais on parle d'hypnose, on va poser pas mal de questions pour connaître la personne et connaître son problème, connaître sa motivation, etc. Donc il faut quand même une première séance pour ça. Et puis après, ça dépend beaucoup de la problématique, de la personne, de ce qu'il faut régler. En dehors de la séance préparatoire, entre une et trois séances suffisent pour aller beaucoup mieux.
Et à qui peut assister à vos séances ? À qui s'adresse-t-elle ? Est-ce que vous avez un public particulier ?
Alors, moi, personnellement, j'accueille des adultes et des adolescents. Il y a des hypnothérapeutes on peut pratiquer l'hypnothérapie sur les enfants. Il y a des protocoles très adaptés aux enfants. Moi, je ne le fais pas, mais ça m'est arrivé d'accueillir des adolescents.
Quand c'est un adolescent, est-ce que les parents ont le droit d'assister à la séance ou ils vous le demandent directement ?
Alors, ils peuvent. Il est préférable qu'ils n'y assistent pas parce que le sujet en hypnose doit se retrouver dans un environnement neutre émotionnellement. Donc, c'est pour ça aussi que l'hypnose, c'est difficile de la pratiquer à domicile. Parce que le domicile n'est pas un lieu de thérapie et le domicile représente tout un lieu émotionnellement riche et c'est mieux de venir consulter à l'extérieur de son domicile. Et la présence d'une personne connue, d'une personne de l'entourage, bah, nécessairement ça fait aussi entrave un petit peu. Donc ça m'est arrivé d'accueillir par deux fois des adolescents. Les parents les accompagnent et restent dans la salle d'attente pendant la séance d'hypnose. C'est mieux. L'adolescent se sent plus libre aussi de parler. Il va livrer peut-être des informations qui vont être nécessaires à la compréhension de sa problématique. Il va peut-être les livrer plus facilement parce qu'il n'y aura pas les parents, justement.
Merci pour toutes ces précisions, Monsieur Serge Olivet. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Peut-être un numéro de téléphone, un lieu par rapport à votre cabinet ?
Alors actuellement, j'exerce au Pôle Bien-être, qui se situe rue d'Abon à Gap. Et donc pour prendre rendez-vous, eh bien c'est facile, il faut me téléphoner donc au 06 41 20 70 70.
Une page Facebook peut-être ?
Oui, une page Facebook au nom de Serge Olive, tout simplement.
Merci beaucoup, Claire. Merci, Serge.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
De rien, merci à vous.